Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast France Télévisions. Le podcast des maternelles pour répondre aujourd'hui à cette question. Comment gérer les crises, les colères, les hurlements, les pétages de plomb de nos enfants? D'ailleurs, doit-on parler de colère ou doit-on préférer évoquer un débordement d'émotions que l'on doit accompagner? Comment rester dans l'éducation bienveillante en cas de crise, malgré la fatigue, malgré le travail, malgré les problèmes du quotidien? Dans cet épisode, on se prend par la main et on s'entraide, vous allez voir. Et pour nous aider tous, les parents, on a trois invités, 5 étoiles. Isabelle Filiosa, bonjour.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce podcast des maternelles. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, vous êtes la papesse de l'éducation bienveillante.
Mamma mia, donc ça.
J'avais pas de mot plus fort que papesse. Éducation bienveillante, positive, autrice de nombreux livres sur nos sujets. Et le prochain qui va sortir dans très peu de temps, eh ben justement, comprendre et éduquer son enfant, qui sort le 4 mai chez Marabout. Vous avez également été la vice-présidente du comité des 1000 premiers jours, dont on a tant parler dans l'émission La Maison des Maternelles. Merci beaucoup d'être là. Héloïse Juny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, vous êtes autrice notamment du livre Pour ou contre, les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances scientifiques chez Duno et du manuel de survie des parents chez Duno également. Vous allez nous aider à décrypter et accompagner les parents qui nous écoutent, et notamment en période de crise. L'objectif de votre livre, c'est de quitter un peu les batailles idéologiques sur des sujets tranchés par la science. Justement, je vais vous demander ce que la science nous apprend des crises des enfants. Il y a encore des gens qui nous disent que la fessée, eh ben, c'est quand même des bons côtés. Je vous demanderai ce que la science nous dit sur la fessée et les violences physiques avec nos enfants.
Bonne idée.
Bonne idée. Et Sophie Astrabi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice. Votre dernier roman, Les bruits du souvenir, est sorti chez Flammarion. C'est un véritable succès. Alors, j'ai souhaité vous inviter déjà car j'ai adoré ce livre, où il est question des liens, des relations mère-fille, des souvenirs de l'enfance et du passé qui font ce qu'on est aujourd'hui. Mais aussi car sur votre compte Instagram, vous racontez avec beaucoup d'humour votre quotidien de jeune maman. Vous avez deux filles adorables,
ouais.
Mais qui savent, voilà, tout est dit dans le rire, mais qui savent elles aussi piquer des belles crises de temps en temps. C'est parti.
Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert.
Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui?
Voilà colère, il est très à cheval sur la justice et l'impartialité.
Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te la finir ton assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster.
Riley, regarde le petit avion.
Mmh. Un avion. On a un avion. Un avion.
Un avion.
Wow. Voilà un extrait du formidable film Vice Versa, merveille de Disney, pour aborder le sujet des émotions. Héloïse Juny, on va commencer par là. Tous les enfants font un jour ou l'autre des crises?
Oui, et les adultes aussi d'ailleurs.
Et les adultes aussi. Bon, là on va se concentrer plutôt sur nos enfants.
Et en fait, effectivement, plus l'enfant est jeune, plus son cerveau est immature, moins il a de capacité de régulation des émotions. Et du coup, plus les crises paraissent genre juste exponentielles, explosives. Et normalement, plus immature, plus on peut s'attendre à ce qu'elles soient mieux régulées.
Ce qui peut rendre dingue les parents, on va y aller direct, c'est de voir que son enfant est adorable à l'école. Quand on le récupère à 16h, il nous dit « mais c'est un petit chouchou » et tout. Et au bout de 2 minutes, il pète les plombs avec nous. Et vous vous dites « c'est normal, c'est une marque de confiance ».
Et c'est un bon signe, au contraire. Vaut mieux ça que l'inverse, généralement d'ailleurs. Et en fait, effectivement, déjà, toute la journée, à l'école, notamment en collectivité, ils accumulent énormément de tensions, énormément de stress, ils prennent énormément sur eux, en fait, ils se régulent énormément. Et en présence de leur figure d'attachement, donc qui sont les parents, le papa, la maman, les personnes qui viennent s'occuper d'eux le soir, ils déchargent leurs tensions. Et c'est quelque chose d'extrêmement naturel, c'est sain. Et au contraire, c'est bon signe.
Ouais.
Mais c'est dur à vivre.
Voilà.
C'est
bon signe, mais dur à vivre. Oui. Isabelle Filiosa, le sujet, c'est qu'on n'est pas tous égaux, nous les parents, pour réagir face à ces moments de tension.
Et oui, parce qu'on a notre propre histoire, évidemment. Et donc, on n'a pas, comme le disait Héloïse, on n'a pas toujours les capacités de régulation. Si, quand on était petit, nos parents ont accueilli nos émotions, s'ils nous ont aidés, quand nous, on faisait des crises, ils nous ont aidés à relier la zone du stress qui déclenche ces tempêtes émotionnelles avec les zones qui sont préfrontales, qui permettent de réguler, de se calmer, de se sentir en sécurité. Alors, une fois adulte, quand nos enfants feront une crise, on saura faire. Parce qu'on aura la capacité déjà de réussir à se réguler soi-même. Ce qui est dur, c'est que quand on n'a pas eu des parents comme ça, quand nos parents nous ont dit « va dans ta chambre » ou nous ont punis ou...
Voire plus, les parents violents, plus, je veux dire, c'est...
Ça, encore plus, mais même si simplement ils n'ont pas tenu compte, ils n'ont pas accueilli nos émotions, donc ils n'ont pas permis de relier la zone « je me sens tranquillisée, je me sens sécurisée » avec la zone « je suis en panique ». Donc du coup, il n'y a pas de régulation possible, et quand on est sous stress, parce que c'est stressant, un gamin qui fait une crise, il se met à hurler dans tous les sens, il s'étale en étoile sur le sol, il est « voilà, qu'est-ce que je fais ?» quoi. Et donc du coup, le circuit de stress s'allume, Si on a les capacités de régulation, on régule, mais si on les a pas, on disjoncte. Et que fait le cerveau? Eh bien, il va chercher la réaction qui va être la plus, qui va lui apporter la meilleure santé. Or, la meilleure santé, c'est malheureusement l'attaque. C'est-à-dire quand on a notre circuit de stress activé et qu'on n'arrive pas à le réguler, on a trois possibilités, attaque, fuite ou immobilisation. Oui. On peut pas toujours fuir hein, en tant que parent. Alors, il y a beaucoup de papas qui fuyaient avant, dans le boulot, dans toutes sortes de trucs. Maintenant, on reste un peu plus, mais une maman est en général la figure d'attachement, elle peut pas se permettre de fuir. Quelquefois elle se fige, mais le plus souvent donc elle attaque. Donc c'est vrai, on n'est pas égaux devant
ses réactions, mais c'est pas irréversible. C'est d'ailleurs tout le sens de votre propos. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a connu un modèle violent, on va le dire comme
évidemment,
qu'on est amené à reproduire.
C'est ça, le cerveau, ça se répare. Le cerveau, il est vraiment
malléable.
Tout à fait. Voilà, il est vraiment capable d'apprendre. En fait, notre cerveau, c'est une machine à apprendre et à s'adapter. Et donc, si on lui fournit la bonne nourriture, ça va. Donc, si on a un conjoint qui est un petit peu plus tendu, qui a un peu plus de mal, eh bien, plutôt, on va surtout pas lui dire « tu ne fais pas bien avec ton enfant, avec notre enfant, ça n'est pas bien ton comportement, là, on risque d'aggraver les choses ». On va lui enseigner à réguler. Et comment on va faire ? Eh ben, on va lui faire un câlin à notre amoureux, ouais. De manière à ce qu'il puisse apprendre à petit à petit gérer. Ça s'apprend.
Bah alors, il faut être fort, hein, pour avoir la force de dire « Allez, viens, mon amour, je te fais un câlin, ça ira mieux après. »
Oui,
mais
en même temps, ça s'apprend. C'est pas forcément qu'il faut être fort, c'est justement avoir l'humilité de ne pas vouloir jouer le jeu de pouvoir. De pas, en fait, dans le couple, on a vraiment besoin de réaliser que tant qu'on cherche à être « Moi, je suis mieux que toi », et qu'on cherche qui va gagner, qui va être le meilleur,
eh bien,
voilà, ça va pas aller.
Bon, je me note couple sur ma feuille pour pas oublier de vous poser à toutes
des
questions.
Des petits cœurs
autour. Ouais, voilà, je fais plein de cœurs pour dire ça reste de l'amour, tout ça. Alors, Sophie Astrabi, une des méthodes possibles pour gérer ces situations, c'est l'humour.
Oui.
Et je pense que c'est le conseil qu'on peut donner à tout le monde. Ce que vous faites, vous, sur votre compte Instagram, en gros, vous racontez des galères qu'on connaît tous. Et vous décidez d'en rire. Exemple, racontez-nous le photomaton avec votre plus petite, c'était tout récent.
Oui, alors j'avais un petit peu oublié que c'était l'enfer de faire des photos dans un photomaton. J'avais oublié que normalement on allait voir un photographe et que c'était très bien. Donc là, je sais pas ce qui m'a pris, j'y suis allée avec les deux, donc 5 ans et 2 ans et demi. Et même pas 2 ans et demi d'ailleurs. Et en fait, c'était l'enfer parce que. Bah déjà c'est encore l'hiver donc on est avec 1000 manteaux, on enlève les manteaux, on pose les enfants sur le tabouret, c'est pas assez haut, c'est trop haut, ça bouge, ça fixe jusqu'au dernier moment puis ça fixe plus, ça fait de la danse, enfin bref, c'était vraiment mais épuisant, on a fait 1000 tentatives avant d'y arriver et je me suis dit tiens, enfin j'ai trouvé ça assez marrant parce que dans les faits c'était au début ça fait un peu péter un plomb mais il y a toujours un moment marrant où l'enfant il fait un truc où tu dis mais comment c'est possible de faire ça
ouais.
Voilà et donc bon moi donc ce que vous disiez c'était que effectivement je raconte ça avec humour un peu aussi pour prendre moi-même du recul parce que sur la situation en elle-même parfois je suis à bout et c'est vrai que c'est presque une mécanique de l'esprit qui fait que j'écris après pour en rire, mais aussi comme je sais que je vais écrire pour en rire, il y a un peu mon cerveau qui commence déjà à écrire ce que je vais écrire sur le sujet, et ça me permet de prendre même du recul sur le moment présent.
D'être
en fait.
Spectatrice de ce qui vous arrive.
Ouais, en fait, je me dis quand je vois que ça va me tendre sûrement, que la situation est vraiment marrante, mais pas tout de suite en tout cas,
ouais.
Je me dis tiens, j'écris mon histoire. Enfin, moi, j'écris des histoires de manière générale, donc c'est vrai que je écris aussi l'histoire sur le moment présent, et ça me permet aussi de me dire attends, on se calme. C'est plutôt marrant. Et puis c'est vrai que, en fait, c'est un peu comme le sujet que quand on part en vacances et qu'il nous arrive une grosse galère, sur le moment, c'est trop chiant. Et en fait, quand on va raconter ça à nos
oui,
proches en rentrant, on va en rigoler.
Après.
Et je me dis, en fait, l'éducation des enfants, c'est aussi ça. C'est-à-dire que sur le moment, ça fait péter un plomb, mais en vrai, avec du recul, c'est trop marrant. Et puis bon, bien sûr, c'est dur de pas penser au moment présent, le temps passe vite, il faut en profiter. Et c'est un petit peu ce mécanisme-là que j'essaie de... Enfin voilà, ça marche dans un sens comme dans un autre, donc j'essaie d'avoir un cercle vertueux sur cette manière de faire.
Alors, c'est spectatrice, mais spectatrice tendre envers soi-même. C'est avec une espèce de complicité avec soi-même qui aide à traverser... Tout à fait,
oui, la bienveillance, mais après, c'est vrai que parfois, je me sens imposteuse ou impostrice, je sais pas d'ailleurs, en me disant, t'es en train de raconter tout avec humour, alors que dans les faits, c'était quand même un peu énervant. Mais après, c'est aussi, le but, c'est pas de cacher que c'était pas un bon moment, c'est juste de le dire d'une manière marrante pour qu'on en rit, mais en vrai, voilà.
Ça me fait penser à quelque chose qui est extrême, mais c'est Florence Obna, quand elle avait été otage pendant un an, quand elle était revenue, elle avait dit, mon moyen pour survivre à cette situation, c'était d'y être en tant que journaliste et de me dire, tout ça, je le raconterai après, tout ça, je vais le vivre. Alors, on va pas comparer à être otage
et
parents. Mais il y a peut-être un petit lien. Ce qui déclenche les crises, c'est le stress généré par une situation où on ne pense pas avoir les clés. Est-ce que si on a plus confiance en soi, déjà, ça passe par là, en tant que parent, est-ce qu'on est, si on est plus sûr de soi, on réussit à mieux gérer ces moments de photomaton? D'ailleurs, juste, la photo a été réussie au final, quoi.
Non, une sur quatre. Ouais. En fait,
si c'est pour le passeport, il faut aller chez le photographe.
Mais okay, le passeport, ça validait pas à chaque fois.
Ouais, moi, ça passe déjà par là, non, avoir confiance en soi, même si on se trompe, être sûr de soi.
Je sais pas, en fait. Je pense que ça passe surtout par, quand on regarde un peu les recherches, on voit que plus notre courbe, genre, c'est bête, mais plus notre courbe de glycémie est basse, genre, plus on a faim, plus déjà, nous, parents, on tolère un peu la frustration. Donc, on peut être au top de notre forme, je sais pas, à 14h après un bon repas, mais à 17h, justement, quand on récupère les enfants à l'école, on est en hypoglycémie, on est fatigué, on a toute la journée dans les pattes, on a un niveau de stress qui est augmenté, et là, on va être beaucoup moins capable de gérer la frustration de notre enfant. Donc, il y a vraiment un phénomène d'aggravation par rapport à l'environnement déjà endogène du parent. Donc, confiance ou pas confiance, je pense que c'est vraiment aussi lié à ce qu'on a vécu, à nos automatismes, à la pratique parentale qu'on a vécu en tant qu'enfant, mais il y a aussi ce phénomène-là, d'ailleurs que moi, j'en sens beaucoup en tant que maman psy, d'ailleurs.
Mais alors, il faut aussi parler de l'âge des enfants, parce que si son enfant a 2 ans, ça n'a rien à voir avec si son enfant a 12 ans. Et d'ailleurs, oui, le mot crise n'est pas le même, ne veut pas dire la même chose. Ou alors, est-ce qu'au contraire, c'est toujours la même chose? C'est la gestion des émotions, des frustrations?
Pour moi, c'est pareil. En fait, du moment qu'il y a une colère, l'émotion de colère, c'est un flux émotionnel. C'est un flux neurobiologique qui est maintenant très bien documenté dans la recherche. Et en fait, qu'on ait 6 mois, qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 40 ans, ce sera le même flux. C'est juste que ce sera plus ou moins bien régulé. Et c'est juste qu'effectivement, plus on avance dans l'âge, normalement, plus on peut espérer que le néocortex vienne freiner, viennent réguler l'émotion, viennent nous aider à relativiser sur le moment. Genre, par exemple, on voit que le cerveau, il est mature vers 20, 25, 30 ans, et en fait, c'est super long. Et donc, un adolescent à 12 ans, on pense qu'il est fini, mais en fait, pas du tout. Il est au loin du compte. Et du coup, il a du mal à dans l'abstraction, il a du mal à relativiser, il a du mal aussi à se réguler. Et en fait, ça, la route est vraiment longue.
Ça s'arrête quand?
Je sais pas, parce que si, genre 40, 50 ans, qu'on a une enfance difficile et qu'on est vulnérable sur la régulation, je sais pas, c'est une question bonus, ça.
Isabelle, vous dites que les parents doivent repérer les premiers signes d'une perte de contrôle. Donc, on va rester dans notre photomaton, là, cette situation qu'on connaît tous. Il faut comprendre le moment où on est en
déjà,
train
de... Sophie a dit la clé dès le début, c'est j'aurais dû me souvenir que c'est pas une bonne idée.
C'est vrai.
Voilà. En fait, le problème, c'est qu'on charge les parents de toutes sortes de responsabilités. Il faudrait qu'ils soient parfaits, qu'ils puissent rester zen en toutes circonstances. Mais en fait, non, il faut changer les circonstances, quoi. Quelquefois, c'est simplement la situation qui est problématique. Et un enfant, c'est pas fait pour être à 2 ans et demi, plus un autre à 5 ans, en même temps, dans un petit cache de photomaton, là, ça va pas du tout. Voilà. Après, quelquefois, on oublie, et puis on se retrouve dans des situations...
Supermarché, d'ailleurs,
c'est pas un endroit pour un enfant.
Soyons concrets. J'aimerais bien vos idées à toutes les trois pour le supermarché. On fait les courses, on arrive à la caisse, l'enfant se roule par terre, on fait quoi? Sophie, allez, on attend votre réponse.
Non, mais après, je me dis aussi, est-ce que c'est une solution de pas les prendre, parce que moi je me rends compte qu'effectivement ils viennent pas souvent dans des situations comme ça, parce que je me préserve de vivre ces crises.
Oui, le secret c'est de faire les courses sans eux, voilà.
Oui, mais après je me dis, moi j'ai quand même fait des courses parfois avec mes parents, il faut aussi que j'ai
l'impression
que
c'était pas les mêmes courses, hein,
peut-être,
c'était pas les mêmes supermarchés,
j'ai l'impression qu'il y avait
pas les mêmes
bientôt ne pas connaître aussi ce que c'est pas la vraie vie. Je sais aussi que bon, ça va, chaque chose en son temps, on n'est pas obligé d'imposer la vraie vie de manière très dure aux enfants très tôt, mais
est-ce que c'est ça la vraie vie? Est-ce que la vraie vie elle est pas dans la forêt, elle est pas voilà, ou est-ce qu'elle est la vraie vie, quoi? La vraie vie,
c'est pas capable de comprendre aussi ce que c'est un supermarché. Bon, après, c'est juste peut-être de le faire pas trop souvent et peut-être dans les bonnes conditions, peut-être une après l'autre, plein de choses comme ça. Moi aussi, ce que je pensais tout à l'heure quand vous parliez, c'est que j'ai 2 enfants qui sont quand même très très différents. Donc, le coup du photomaton, peut-être que je l'aurais fait avec la première, ça aurait pas été pareil, sauf que j'ai oublié que la seconde n'était pas pareille. Et donc, il y a eu aussi un peu ça. Et puis, c'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de gérer un enfant que d'en gérer deux, même s'il y en a un qui est plus grand et qu'il y a toujours une petite addition. C'est pas deux fois plus dur, mais c'est.
Ouais,
il y a une stat. Non, donc les colères, oui, je sais, enfin, je pense qu'en fait, c'est le vrai problème, c'est le regard des autres que sur nous, et ça, il faut le laisser tomber, en fait.
On peut ça, Isabelle?
Non seulement on peut, mais c'est vraiment hyper important, parce que il n'y a pas de raison, en fait, d'avoir plus peur du regard de gens qu'on ne connaît pas que du regard de notre propre enfant qu'on aime profondément. Donc c'est vrai que malheureusement, il semble qu'on soit tous un peu plus autoritaires en présence du public, alors que si on est chez nous, si on est tranquille, si on est zen, eh bien non, on va pas être aussi autoritaire. On va avoir des réactions beaucoup plus éducatives. Donc ça n'est pas normal de laisser le pouvoir aux passants de diriger la manière dont on éduque nos enfants, quand même.
Juger, ouais, c'est ça.
C'est voilà, c'est très oppressant, quand même. C'est très oppressant. Faire une bulle autour de soi, en fait.
Mais il y a un côté spectateur
une
aussi.
Une boule ou non? Oui.
Enfin, moi, ça m'est pas trop arrivé, ces colères terribles. Mais c'est vrai que parfois, je m'élève au-dessus et je regarde et ça me fait vraiment. Enfin, peut-être c'est un rire nerveux, je sais pas. Mais j'ai un côté, je ris, je me dis, mais c'est quand même pas croyable de se dire que là, elle est couchée par terre en train de vouloir faire de la gym sur un trottoir ou.
Je pense que l'humour est vraiment ta capacité. Ça t'amène vraiment à relativiser, en fait. C'est vraiment ton...
Ouais, alors après, ouais. Je veux pas faire croire aux gens aussi que je fais que rire et que ma vie est géniale, mais il y a un petit côté, je me dis, c'est enfin, vraiment ce recul-là de ouais. Se regarder, de se dire, mais je pensais pas du tout qu'un jour je serais dans cette situation d'avoir un enfant en train de se rouler par terre, et c'est en train d'arriver. Et du coup, je me dis, mais en fait, de se moquer de la personne aussi qu'on a été, je trouve que c'est un petit côté. En fait, l'autodérision, c'est déjà une des formes de l'humour que je pratique beaucoup, et qui sert.
Mais l'autodérision avec tendresse. Oui. Et peut-être on peut avoir la même dérision avec tendresse envers les gens qui nous regardent. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à se mettre une bulle et à se... parce que là on est encore en train de se protéger, ça veut dire si on se met une bulle autour de soi, et donc du coup c'est comme si on donne encore du pouvoir aux autres de nous obliger de nous mettre dans une bulle, tandis que quelqu'un qui nous juge comme ça, la personne qui passe et qui voit la gamine allongée par terre,
voir qui dit quelque chose,
on la regarde avec tendresse.
Ah oui,
en fait la parentalité positive c'est avec tout le monde, c'est pas seulement avec les enfants, c'est une attitude générale d'empathie. Parce que pourquoi est-ce qu'elle réagit avec du jugement? C'est parce que elle-même jamais elle aurait osé faire ce comme ça. Donc mais on peut lui dire ah vous auriez bien aimé.
Est-ce
qu'être
trop empathique, on se fait pas bouffer aussi, notamment par les autres?
Dans la véritable empathie, je pense pas. Je pense que ça nous donne.
Je parle
c'est
pas de nos enfants, je parle des autres. En règle générale, je sais pas, moi je me fais doubler au supermarché, j'ose pas dire à la personne vous m'avez doublé. Je me dis ah la pauvre, elle a peut-être son histoire, elle est peut-être pressée et tout. Puis au final, je me fais doubler par tout le monde. J'ai un peu l'impression d'être le blaireau du supermarché, quoi.
C'est vrai, l'empathie c'est une compétence et donc c'est à utiliser à bon escient.
Voilà.
Au bon moment. Et donc il y a des moments où effectivement c'est pas utile d'être empathique. Voilà. Il vaut mieux utiliser l'affirmation de soi.
C'est ça. Mais avec empathie. Oh là, c'est compliqué tout ça. et donc. Héloïse, vous n'avez pas donné la petite astuce. Vous faites quoi au supermarché si...
Et ben moi, ça m'arrive. Alors, avant plus, maintenant, je fais le drive. Mais...
J'allais dire oui, sinon Amazon. C'est...
Mais j'allais dire, voilà, la vie est trop courte. Mais en fait, moi, quand ça m'arrive, en fait, je suis très sensible au regard des gens. Et en fait, il y a un truc qui est pire que gérer son enfant au supermarché, c'est gérer son enfant au supermarché quand on est psy. Et en plus, quand on écrit des bouquins sur la parentalité.
Ah ouais, non, parce que là...
Et quand les gens sont
courants.
Quelqu'un
vous reconnaît. Ah ouais,
non, en fait, non, c'est juste que, genre, au parc, ça arrive souvent au parc, ma fille dégoupille devant tout le monde, devant les parents d'élèves. Je me dis, voilà, ils savent que je suis psy. Ils savent que j'écris des livres de psycho, comment éduquer son enfant. Je me sens nulle. Je me sens vraiment nulle. Et à ce moment-là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends ma fille, systématiquement, je prends ma fille et je la régule plus loin, en fait. Genre, on se fait un espace derrière un arbre ou dehors sur le parking, mais en tout cas, on se met loin du regard social. Moi, je suis très sensible. J'arrive pas encore à m'en affranchir, donc moi mon truc c'est je prends mon enfant sous le bras, hop, et je vais les réguler ailleurs.
Imaginez quand on travaille au maternel, où on explique aux gens comment faire. le regard social, moi je crois que j'ai réussi à passer outre.
Ça va être difficile.
Bah non, mais du coup les gens, non, ce qui est marrant c'est que les gens viennent me demander des conseils au parc. Comment tu ferais toi? Je dis mais j'en sais rien. Lisez les livres de.
À chacun pour soi. Ouais,
chacun sa guerre. Ce qui était intéressant tout à l'heure, Isabelle, vous disiez il faut creuser dans son enfance, dans son histoire. Alors c'est pas simple, mais j'ai l'impression qu'en devenant parent, on le fait tous plus ou moins. Sans forcément le théoriser.
Exactement,
mais ça
madame.
Nous renvoie des images passées.
Tout à fait, c'est automatique en fait, parce que lorsque notre enfant atteint l'âge auquel on a subi quelque chose de difficile, eh bien automatiquement notre cerveau ramène l'histoire en présence et ça nous réactive. Et donc en regardant et en observant, évidemment que ça nous perturbe. Bah, quelquefois, on dit, je suis en train de dire ou de faire exactement ce que je supportais pas que ma mère m'ait fait. Et on est là, on est paralysé, on se dit comment c'est possible. Mais en même temps, ça met la lumière sur des blessures de notre enfance. Donc, eh bien, on fait pas seulement la parentalité positive envers nos enfants, mais aussi envers nous, l'enfant à l'intérieur de soi.
Ça demande un petit peu de bienveillance avec soi-même.
Tout
vous l'avez dit. Moi, c'est mon père qui disait tout le temps, c'est pas Versailles ici. Et un jour, je me suis entendu dire, fermez les lampes, c'est pas Versailles ici. Je me suis dit, aïe, 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 faut que j'aille consulter. Alors, Sophie Astrabi, c'est tout à fait le thème de votre dernier roman. Le bruit des souvenirs chez Flammarion. À la mort de sa mère, Claire décide de partir en quête du passé de sa mère. Mère avec qui elle avait des relations tumultueuses, on va dire, qu'elle n'avait pas totalement compris. Et donc, de son passé à elle, elle va découvrir des souvenirs qui vont donc bousculer tout ce qu'elle croyait. C'est exactement ce que vous disiez, Isabelle. Ce travail à faire sur soi a été indispensable pour elle. Est-ce que pour vous aussi, en tant que mère, il s'est imposé à vous en devenant maman?
Ouais, mais c'est un peu le départ du livre, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai eu l'âge de ma mère. enfin l'âge auquel elle m'a eu. Donc en fait, je me suis dit bon, ça y est, je vais commencer à vivre l'âge auquel ma mère m'a connue. Donc déjà, c'était un premier choc. Le second, c'est aussi de se dire que ma fille, elle regarde parfois des photos. Donc elle regardait des photos de moi avant que je l'aie. Et je sais que moi aussi, ça me fascine énormément de regarder des photos de ma mère plus jeune, en fait. Et je me dis voilà, oh c'est fou. En fait, je suis plus vieille que cette personne maintenant. Elle a aimé, elle a été triste. Enfin, c'est assez vertigineux parce que en fait, nos parents, on les voit qu'en tant que parents. Et je me dis, ma fille me voit que en tant que mère. Elle peut pas avoir conscience que ma vie est beaucoup. Enfin, je suis beaucoup plus que j'étais. Enfin, j'étais. Attends, on va reprendre. Je suis beaucoup plus que j'étais avant elle que ce que je suis depuis qu'elle est là, en fait. Et c'est marrant parce que du coup, je me suis posé des questions sur l'identité en me disant, mon identité, c'est plus ma vie sans enfant. Et donc, ce livre, c'est aussi cette idée-là de partir à la recherche de la personne qui nous a, qu'on croit connaître et qu'en fait, on connaît pas. Et donc,
avec des souvenirs qui lui reviennent en pleine face.
Ouais, voilà.
Des choses qui marquent. Et c'est peut-être là où on peut aussi peut-être dire un mot des violences qui sont pas forcément physiques, mais des violences psychologiques, des mots qui restent pour les parents, ça s'échappe, ça sort tout seul, ouais. Et plusieurs années plus tard, ça ressort.
C'est le concept du souvenir, en fait, c'est-à-dire que si on passe ce podcast en sortant d'ici, on va avoir des souvenirs différents, alors qu'on a vécu le même moment.
Je pense que vous direz toutes les trois que c'était génial.
Ça, c'est sûr, mais on dira peut-être, ah, mon préféré, c'est celui-là, et puis ouais. Quelqu'un d'autre dira autre chose. Et en fait, c'est le concept de la vie, qu'est-ce qui nous reste comme souvenir de notre enfance, donc. Et donc, effectivement, entre le parent qui a vécu le moment avec son enfant, on n'a pas la même perception. Donc, toute perception, c'est aussi beaucoup le sujet du livre. Et voilà.
Et quand, Isabelle, on a été victime de violences traumatisantes, traumatiques, il n'y a pas besoin de rappeler les chiffres des différentes formes de violences, et qu'on devient parent, là, il faut réussir à avancer, malgré ça, malgré les bagages qui peuvent bloquer, malgré la peur de reproduire aussi, bien sûr.
Alors vraiment, d'abord, on enlève le « il faut ». Il n'y a pas de « il faut », on doit. C'est vraiment chacun le chemin qu'il a à parcourir. Mais forcément, notre histoire nous revient en force. Et du coup, on a besoin d'aide. On a besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Et vraiment, c'est important de se souvenir que non, c'est pas parce qu'on a subi qu'on va faire subir. C'est pas parce qu'on a été victime qu'on devient forcément agresseur. Non, c'est vrai qu'il y a des impulsions qui vont venir, mais on a des capacités de régulation et on peut apprendre à réguler et on peut véritablement guérir son histoire. Et quand on a subi des violences, par exemple, un papa nous a crié énormément dessus, donc on s'est senti impuissant. Donc il est très probable que chaque fois que face à nos enfants, on va se sentir impuissant, on va avoir une impulsion à se mettre à crier, comme papa. Mais il suffit de soigner ce sentiment d'impuissance. Donc on va retourner dans l'histoire, on va sentir ce sentiment d'impuissance devant papa qui criait, et là, avec le nous d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris depuis, on va prendre notre énergie, prendre notre puissance et dire « Papa, tu n'as pas le droit !» On va gueuler contre papa, dire « Stop !» à papa. Et une fois qu'on a osé finalement s'affirmer vis-à-vis, et donc vis-à-vis du papa, et stopper cette violence, on a guéri. En fait, le sentiment d'impuissance. C'est une bascule à l'intérieur.
Moi, je trouve que c'est compliqué de faire ce travail-là. Quand par ailleurs, on a un boulot, on a une vie fatigante, on a nos problèmes, nos galères, nos histoires d'argent, etc.
Ça prend une heure, hein.
Vous dites que ça prend une heure? Moi, j'ai l'impression que c'est un travail au quotidien.
C'est un travail au quotidien quand on est tout seul. Mais avec un psy.
Ah oui, d'accord.
Ah ben oui, ouais. On fait ça dans un cadre avec quelqu'un qui nous accompagne parce que c'est extrêmement difficile d'arriver à entrer en contact avec l'enfant en soi. Puis en plus, on a tendance à se juger. Ah oui, mais j'avais quand même fait une bêtise. Ah oui, mais j'étais nulle comme gamin. Voilà. Donc il y a quand même tout un travail où effectivement c'est mieux, c'est plus confortable, je dirais, d'être accompagné. Mais bon, il y a des stages aussi. J'ai conçu un stage grammaire des émotions dans lequel on apprend d'abord à réguler les émotions. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? À apprendre à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et il y a une deuxième journée dans laquelle on fait ce travail de guérison. Et il y a vraiment un avant et un après. J'ai vu combien de personnes qui criaient énormément sur leurs enfants, voire les frappaient. Ils font cet exercice et juste après, ils ont repris le pouvoir. Et ça alors, j'ai même plus l'impulsion à crier. J'ai plus l'impulsion à taper. Donc ça se déracine assez facilement. C'est l'idée que c'est difficile qui pose problème.
Il reste de la place dans vos stages? C'est quand le prochain?
C'est plus moi qui les anime, mais il y a plusieurs de mes élèves qui les animent régulièrement.
Okay. On va écouter un témoignage maintenant d'une maman, une autre maman. Elle s'appelle Mélissa, maman d'un petit Eden qui a 20 mois, qui fait régulièrement des crises. Elle explique sa technique qui va sûrement vous plaire.
Bonjour, je m'appelle Mélissa. Voilà, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Eden, de 20 mois. Donc, pour l'instant, il fait des crises. En fin de compte, on appelle ça des colères. Dans le jargon, on va dire familier. Moi, je comprends bien que c'est des crises de frustration parce qu'à chaque fois que ça se produit, en fin de compte, c'est parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Typiquement, la dernière fois, il a voulu mettre sa tondeuse, donc son jouet, sur le vélo, mais bon, ça ne fonctionnait pas forcément. Et donc, il s'est mis à s'énerver, à crier, à pleurer. Et donc là, c'est des gros pleurs. Donc moi, ma réaction, j'attends un petit peu et puis je lui demande s'il veut un câlin. S'il accepte, il vient me faire un câlin, donc ça apaise la situation. Et puis du coup, il oublie la colère, il oublie la crise et puis il repart jouer tranquillement. Si par contre il n'accepte pas le câlin, il ne veut pas, je le laisse un petit peu tranquillement dans son coin pendant peut-être une minute ou deux. Si je vois que la colère ne passe pas et qu'il continue à s'énerver de plus en plus, bien sûr, je vais le voir et je vais le rassurer, le calmer. Alors par contre, je ne sais pas du tout si je fais bien, c'est la bonne méthode, parce que beaucoup de personnes de mon entourage me disent que il fait des colères et que voilà, mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Merci.
Alors merci à Mélissa pour son témoignage qui parle de la gestion des frustrations. C'est le vrai sujet, surtout à 20 mois avant les 2 ans. C'est apprendre à son enfant à gérer les... On peut pas dire oui à tout. On en revient au supermarché, si on lui dit oui à chaque fois, il a des caries partout, parce qu'on lui achète des bonbons tout le temps, et il sait pas ce qu'est la frustration. Et ça donne un psychopathe plus tard. Est-ce que je vais trop loin, peut-être?
Au moins.
Non, mais c'est quand même...
C'est vrai qu'alors souvent on dit il faut apprendre l'enfant, il faut apprendre la frustration à l'enfant. Déjà, dès la naissance, l'enfant est frustré, et toute sa vie sera jamais de frustration. Les frustrations, c'est ok, ça fait partie de la vie. Et on peut pas demander à un enfant de 20 mois de gérer sa frustration, parce qu'il n'est pas encore capable sur plein de plans. Et après, il y a souvent, je pense, une idée reçue justement sur tout ce qui est éducation positive, éducation démocratique, c'est de dire, on pense en fait que les personnes qui pratiquent cette éducation-là ne vont jamais imposer de frustration à leur enfant, et surtout qu'il n'y a jamais de limite. C'est pas ça, en fait, il y a des limites, elles sont très claires, le cadre est très là, donc la frustration est là, c'est juste qu'on va appliquer les cadres sans violence, sans hurler sans l'enfant, sans le frapper, sans l'isoler, donc c'est juste ça, mais la frustration en tout cas fait partie de la vie. L'idée, c'est pas de l'éviter à tout prix, c'est de l'accompagner comme on peut avec notre disponibilité du moment, en fait.
La frustration, c'est quoi? C'est une chose saine?
Oui, c'est inévitable, comme vient de le dire Héloïse, c'est totalement inévitable. Il y a une étude de Walter Michel qui est extrêmement connue, qui s'appelle l'étude du chamallow, et c'est vraiment intéressant.
Alors ça, c'est fascinant. Il faut envoyer tout le monde vers les vidéos YouTube. Hein.
Oui, ouais. C'est drôle. Ouais. C'est ça, c'est très... Oui,
bah,
c'est
je vous laisse expliquer.
Voilà, donc, un enfant est là, on lui met une petite assiette avec un bonbon, un chamallow, une friandise, et on lui dit... voilà, tu as cette friandise. Si tu la manges, ben voilà, c'est tout, c'est fini. Je vais sortir et quand je reviens, si tu as pas mangé la friandise, je t'en donne une deuxième. Est-ce que tu veux un chamallow ou deux chamallows? 100% des enfants veulent deux chamallows. Et donc, Walter Michel, l'expérimentateur, sort de la pièce après avoir présenté le truc. Il a quand même donné aussi une petite sonnette et l'enfant peut sonner si jamais il craque et qu'il veut faire revenir. Et là, ce qui est drôle sur les vidéos, c'est qu'on voit les enfants qui essayent toutes les stratégies possibles pour ne pas... Il y en a qui en mangent un tout petit peu à l'envers.
Ils le touchent, ils le sentent, ils le lèchent, mais ils ne le mangent pas.
On voit l'impulsion. Et ce qui est intéressant quand même dans cette étude, c'est que 0 enfant de moins de 3 ans réussissent à ne pas manger le chamallow. Donc là, ça nous donne vraiment confirmation de ce que vient de nous dire Héloïse, c'est que non, à 20 mois, on ne peut pas réguler. C'est pas possible de tolérer la frustration plus de quelques secondes. On craque, tout simplement. À partir de 3 ans, oui, c'est vrai, les enfants sont inégaux. Certains vont craquer et d'autres vont réussir. Ce qui est très... Moi, une petite anecdote que j'ai vraiment adorée, Walter Michel remarque que souvent, quand un enfant réussit à avoir les deux chamallows, il les mange pas. Il les met dans sa poche pour montrer à ses parents comment il est fier d'avoir
fier de lui,
les deux chamallows. Et donc, tous les gens qui nous disent « Oui, les enfants sont incapables de résister à la frustration, etc. » Non, c'est pas vrai. En fait, il y a d'autres motivations qui sont bien supérieures, notamment être fier d'avoir réussi. Mais voilà, avant 3 ans, c'est pas possible. Enfin, C'est un peu possible quand même. Alors déjà, il y a des différences. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va résister à la frustration ou pas? Il y a eu toutes sortes de gens qui ont dit « Oui, voyez, c'est prédictif quand on ne résiste pas à la frustration à 3 à 4 ans, eh bien, toute sa vie, on risque d'avoir des tas de problèmes, etc. » C'est vrai. Sauf que la différence, elle n'est pas... Il ne faut pas enseigner la frustration. Ça ne sert à rien de frustrer exprès.
De toute façon, dans la vie, on sera confronté à ça, ouais.
De toute façon. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est la fiabilité de l'adulte. Et donc, en fait, c'est la qualité de l'attachement qui va permettre aux enfants de résister davantage. Donc, en réalité, c'est la parentalité positive, c'est l'éducation positive et toute cette, la force de l'attachement qui va permettre aux enfants de mieux résister et de tolérer davantage la frustration. Une autre chose vraiment intéressante, que bien plus tard, Walter Michel a fait, il s'est dit, tiens, je vais analyser les stratégies des gamins qui arrivent bien à le faire. Et donc, ils demandent, comment tu as fait, toi, pour ne pas manger ton chamallow? Il y en a un qui dit, ben, j'ai imaginé que c'était une boule de coton. Ça se mange pas, une boule de coton. Donc, du coup, je l'ai vu dans un cadre. Et du coup, un cadre, une peinture, ça se mange pas. Donc, les enfants avaient développé des stratégies. Et donc, Walter Michel s'est dit, et qu'est-ce qui se passerait si je fournissais cette stratégie à un enfant qui, normalement, ne réussit pas? Donc, il a donné les stratégies à des enfants de 3 ans moins le quart et ils ont réussi. Et un enfant de moins de 3 ans a réussi à attendre jusqu'à 17 minutes.
17 minutes ?
Ouais, c'est fabuleux.
Wow. C'est le record du monde.
Voilà. À partir du moment où on lui donne la technique. Ouais. Et en fait, toute la parentalité positive, c'est ça, c'est on fournit la base d'attachement. L'adulte est fiable, il est mon copain, mon ami, il n'est pas mon ennemi.
Non, il est associé à lui dans le,
voilà,
dans l'exercice.
Et en tant qu'adulte, je fournis des ressources, des idées à l'enfant pour qu'il puisse réussir. Quand il y a vraiment un challenge, on a un enfant de 20 mois, là, il y a une histoire de comment faire. Je suis dans le photomaton avec une petite de 2 ans et demi qui ne peut pas réguler toute seule la frustration, qui ne peut pas gérer la situation. Eh bien, comment je peux lui enseigner de quel talent elle a besoin.
Walter Michel, hein, il s'appelle.
Walter Michel,
tout le, monde
le test du chamallow.
Voire même le faire soi-même. Moi, je l'avais fait avec mes enfants. Et
ah ouais,
c'est à mourir de rire,
c'est
de les regarder. De les regarder ressentir les chamallows et tout. C'est très drôle. Même plus grand, d'ailleurs.
Il me semble justement que ceux qui réussissent sont associés à une meilleure vie scolaire par la suite, à une meilleure réussite scolaire, effectivement.
Ouais,
c'est mieux contrôler l'inhibiteur.
Ça met la pression.
Moi, j'avais vu ça et ça m'avait un peu braqué sur l'étude parce que je m'étais dit, oh là là, encore un truc où il faut. Mais bon, effectivement, de raconter comme ça en se disant que si on explique et que c'est toujours possible, en fait, du coup, tout le monde peut réussir.
Et alors, Sophie, on parlait de jusqu'à 3 ans, c'est très difficile de gérer ça. Vous, votre dernière à 2 ans et demi, on est dans les Terrible Two?
Oui, qui a commencé tôt en me disant ça va finir plus tôt, mais non, ça continue. Donc, c'est pas facile, 2 ans, c'est la fille au bout du rouleau. C'est surtout aussi, je trouve que dans une fratrie, l'enfant prend la place qui est disponible. Et donc, nous, on a une aînée plutôt sage, plutôt, pour le coup, je suis sûre qu'elle aurait pas mangé de chamallow. Et je pense qu'elle aurait pu faire plus de 17 minutes. Et même à 2 ans.
Elle aurait explosé le truc.
Et on a du coup la deuxième qui prend la place qui lui est autorisée. Donc, c'est-à-dire que c'est celle qui fait plus de blagues, qui est plus. Enfin voilà, moi je trouve toujours que on prend la place qui est disponible et donc elle prend cette place-là.
Et elle se construit un peu en opposition
à
la grande sœur.
Oui, je trouve pas mal et du coup forcément il y a plus de colère aussi parce que la place qui est disponible, c'est ça, c'est celle qui fait du bruit.
Ouais.
Donc voilà.
Oui, c'est ça, il y a une grande différence entre les aînés et les seconds et c'est assez typique en fait. L'aîné, on lui parle énormément, on le regarde beaucoup, on est beaucoup dans une communication verbale.
Ils ont eu le temps.
Et voilà, tandis que le deuxième, il est beaucoup plus corporel très souvent et parce que justement on l'a dans les bras pendant qu'on parle au grand qui développe davantage la cognition, etc. Et le petit, il est beaucoup plus dans l'émotionnel, le tactile, les objets, les contacts.
Et donc Héloïse Junier, moralité, il faut faire un troisième enfant. Et là, ça appelle, tout le monde est équilibré.
Non. Ou pas.
Et le troisième enfant dans tout ça, qu'est-ce que ça change? Parce qu'effectivement, je crois que c'est assez classique que le deuxième se construise en opposition, mais le troisième, du coup, il se construit comment par rapport aux deux premiers?
Alors, j'ai très peu étudié la fratrie, en fait. J'ai encore peu étudié la place du premier, du second et du troisième. Mais ce que j'avais vu, comme sur les études, ça montrait que le troisième avait une forme d'indépendance par rapport à la fratrie. Ils avaient plus tendance à l'âge adulte. Alors, c'est des corrélations statistiques, hein. Ça n'a rien à une corrélation que vous avez fait, mais ils avaient plus tendance à devenir des individus plus créatifs et plus indépendants. Alors que le premier avait plus tendance à être conformiste aussi à l'âge adulte. Après, ce sont des études, mais j'avais trouvé ça intéressant, la place.
Il y avait une étude sur le premier plus tard. Ce sera celui qui fera les plus grandes études, qui sera le plus carré. En gros, on est dans la caricature, mais c'était un peu l'idée.
Ils sont plus stimulés aussi, les premiers. premier. Ouais.
Ouais, le deuxième, c'est souvent le plus rigolo, mais qui fait un peu plus les conneries. Je suis dans la caricature, mais c'était l'idée.
Oui,
oui, mais et le troisième, c'est l'artiste.
Et c'est oui, non, c'est vrai, ouais, c'est ce qu'on fait les recherches. Ouais. Ouais.
Et le quatrième, du coup, ça devient...
S'il existe.
Vas-y. Allez, autre témoignage qu'on écoute. Un papa, tiens, Alexandre, c'est parti.
Bonjour tout le monde, alors bon, moi c'est Alexandre, je suis le papa d'un petit garçon de 8 mois et d'une petite fille de 3 ans et demi. Et bah, pour nous c'est chaud avec Ambre en ce moment. Autant le ce qu'on appelle le terrible tout, hein, voilà, pour ces 2 ans, ça s'est plutôt bien passé, enfin ça n'a pas été du tout terrible d'ailleurs, voilà. Autant le ces 3 ans, qu'on appelle parfois le teenager, c'est un peu hard. L'autre jour, elle avait vu un manège, par exemple, de l'autre côté de la rue, et je lui dis que j'avais pas d'argent sur moi, et elle s'est mise à hurler, à se jeter par terre, à vouloir traverser, alors que les voitures avançaient à toute vitesse, et j'ai dû la prendre dans mes bras, ben, pour la protéger, tout simplement. Et voilà, donc quand la frustration est très... voilà, quand elle est frustrée, ça engendre des colères qui sont assez terribles. Et bon, moi j'ai lu beaucoup de choses, hein, sur les neurosciences, sur le fait que les petits enfants ne font pas de caprices, sur le fait qu'il faille accueillir leur colère et les aider à poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc c'est ce que j'essaie de faire au maximum. C'est pas toujours possible parce que moi-même parfois j'ai envie d'hurler, voilà, parce que je suis fatigué, parce que c'est dur. Donc quand elle est vraiment dans des états pareils, je laisse un peu dans son coin, en fait, le temps qu'elle se calme et puis le temps que moi aussi je me calme. Et une fois qu'on est tous les deux calmés, et ben, on essaie de, j'essaie de lui faire un câlin si elle est ouverte à cette proposition, et puis on essaie d'en discuter un peu plus calmement. Mais clairement, c'est pas du tout toujours simple.
Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage passionnant. Je pense qu'on peut tous les trois, quatre, être d'accord avec ça. Bon, on dit un mot du couple, parce qu'on l'a évoqué en début d'émission. Ça doit être le pilier pour tenir malgré les crises. Je sais pas qui de vous trois veut commencer là-dessus. Il faut aller tous les deux dans le même sens, ce qui est facile à dire. Allez, Sophie.
Non, mais je sais plus qui a dit au début ça, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit une équipe et que moi, c'est vrai que parfois aussi, je trouve que c'est parfois ingrat, l'enfant. donc, il y a aussi ce sentiment de vouloir être aimé par l'enfant, donc de se dire, je suis celui qui va un peu être plus dur sur la colère. Après, ben, ça va être toujours le référent, ça sera toujours l'autre personne qui va être. Enfin, je sais pas, je me suis voilà. En tout cas, je sais que je trouve que ça, c'est un truc auquel je me dis parfois, Sophie, arrête de penser à ça parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Faut pas tout intellectualiser, sinon.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai que d'être celui qui est dur. Moi, souvent, quand je suis dur, je vais vite prévenir en disant non, tu tiens ma ligne de conduite parce que je veux pas être celle qui suis dure toute seule.
Oui.
C'est aussi d'être cohérent avec parce que l'enfant va aller chercher ailleurs en pleurant.
Et ils sont assez forts pour ça, ouais, pour aller chercher.
Même tôt, hein, finalement.
Tôt, ouais. Ils sont...
Oui, en même temps. En même temps, pourquoi pas, hein. Et on a le droit aussi de leur apprendre la vraie vie et de voir que, eh bien, deux personnes peuvent avoir des façons de réagir différentes. Quand on vit ensemble, on peut négocier. Quand on ne vit pas ensemble, et c'est vraiment le cas de nombreux couples, parfois le papa fait d'une certaine manière, la maman d'une autre manière, et c'est pas forcément montrer un front commun, parce que à montrer un front commun, quelquefois, on s'enferme dans des erreurs et dans une méconnaissance du besoin de l'enfant. Et de manière générale, celui qui demande à être suivi, c'est celui qui est le plus autoritaire. C'est-à-dire celui qui est le plus loin du besoin de l'enfant.
Sophie, donc vous êtes un peu autoritaire.
Parce que c'est tenir ma ligne. Et il ne s'agit pas de tenir une ligne, en fait. On a besoin de sortir de la bagarre, quoi.
Non, mais typiquement, enfants, un enfant vient demander à sa maman des bonbons. La maman dit non, il est 19h, tu ne vas pas manger des bonbons. Et après, elle va voir le papa, et le papa dit oui, bah, prends un bonbon.
Oui, c'est un cadre, en fait.
Il bah, oui, y a quand même des moments où ça vaut le coup d'être, de tirer dans le même sens.
D'être aligné, oui, tout à fait. Évidemment. On a besoin d'avoir le même cadre. De permettre à l'enfant et de décider ensemble qu'est-ce que nous permettons et qu'est-ce que nous ne permettons pas. Et donc, effectivement, là, il faut interposer une limite claire, oui.
Mais le couple, il désamorce plus souvent que l'inverse. En fait, c'est rare qu'on se dise, tiens, l'autre est hyper en colère, je vais m'énerver pareil. C'est plutôt l'autre a réussi à gérer. Ok, donc je redescends. L'autre
ça, c'est intéressant, la prise de relais du couple.
Ouais,
du coup, elle est précieuse.
Ouais, c'est hyper précieux. Mais effectivement, ça va, c'est souvent dans le bon sens. C'est rare que ce soit une escalade négative, je crois.
On n'espère pas.
On n'espère pas. Cas, mais c'est
plutôt... vrai qu'il est goupille, l'autre prend la relève et arrive un petit peu à prendre.
Enfin, lui, il a été fort sur le coup. Moi, j'ai été nulle. Attends, on va désamorcer et puis on va.
Non, il faut pas se dire qu'on a été
nul. Non, on n'a pas été nul.
Géré comme on pouvait.
On a été moins bon que d'humilité.
Et c'est là qu'il y a deux choses en fait. Il y a le couple et puis il y a le coparent. Donc le couple, c'est là où on va se ressourcer. C'est là où on va se reprendre. Comme vous disiez, Sophie, c'est vraiment important. On a besoin de sentir cet amour et c'est ça nos ressources. Donc grâce à notre conjoint, ben on se recharge en amour parce qu'on en a besoin. On se recharge d'ocytocine, etc. Mais il y a aussi le coparent, c'est-à-dire celui qui va être avec nous, le parent. Faut quand même aussi mesurer que c'est sûr qu'on a absolument besoin d'être au moins deux pour élever un enfant, mais même deux, c'est pas assez. Et donc, on se met trop la pression. C'est beaucoup trop peu. On se met la pression à devoir être parfait en étant juste, ben, je devrais pouvoir et réussir à élever mes enfants, mes deux, trois, quatre enfants, toute seule ou à deux. Ben, en fait, non, quoi. Il y a vrai, on dit souvent, il faut un village pour éduquer un enfant, mais c'est vrai.
Et on est, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins, là. Je veux dire, le Covid a éloigné encore plus les familles, plus, les grands-parents sont de plus en plus éloignés, les grands-parents travaillent maintenant plus.
Et donc... ça a fait exploser la violence, hein. Les plaintes au 119 ont explosé pendant le confinement, donc c'est extrêmement
violence
difficile.
Violence vis-à-vis des enfants, violence conjugale aussi, bien sûr.
Surtout qu'en plus, on devait être resté à l'intérieur, et un enfant qui reste à l'intérieur, c'est pas possible. Un enfant de 2 ans, il doit être 4 heures dehors. S'il court pas 4 heures dehors dans l'extérieur, dans la nature, il va forcément être tendu et faire des crises. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit des crises de plus en plus de nos jours, c'est que les conditions dans lesquelles on élève les enfants ne sont pas propices au calme et à la tranquillité.
Ouais. On mesure peut-être pas encore totalement les conséquences des 2 années qu'on vient de vivre sur nos enfants, sur les plus petits.
Elle commence à être étudiée et pour l'instant c'est assez dramatique. Donc on voit que les bébés qui sont nés pendant le confinement, pendant toute cette période, ont un retard développemental assez important. Donc la clé maintenant c'est de le mesurer, de se dire ok, ils ont un retard,
on rattrape.
Donc maintenant, voilà.
Socialement, comme le cerveau socialement est... aussi, la peur de l'autre, des plus grandes difficultés à aller vers les autres.
Il y a plus d'anxiété, il y a plus de difficultés. Et puis, un certain nombre d'apprentissages n'ont pas été faits en temps utile. Et donc, il va falloir en remettre une couche. Et donc, pour l'empathie notamment, pour l'empathie, on a besoin de beaucoup muscler toute cette zone de toute la bouche. Parce que voilà, l'empathie, ça se construit. Je souris, vous me souriez. On fait une grimace à l'enfant, c'est sous ce mirroring, on vit des émotions, on nomme les émotions, et tout ça, ça permet de construire petit à petit. Et donc, les enfants... Alors, il n'y a pas que le masque, il y a la tétine aussi, parce que la tétine va avoir le même impact. Un enfant qui a une tétine pendant 4 heures par jour quand il est petit, avant 5 ans, jusqu'à l'âge de 5 ans, eh bien, à l'adolescence, il va montrer moins d'empathie. Pourquoi ? Parce que pendant la phase de petit où il aurait dû apprendre à l'empathie, apprendre d'en sentir dans l'empathie dans ses muscles, dans son corps, il n'a pas pu le faire. Donc, on le sait déjà sur la tétine, on ne l'a pas encore mesuré véritablement avec le masque et avec tout le reste, mais donc, on va regarder plus attentivement, et chaque parent a vraiment besoin de mesurer, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'en est mon enfant, et là, on a besoin de remettre vraiment beaucoup en termes d'attachement,
de contact. Oui, là aussi, c'est pas irréversible, c'est hyper important de le dire pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, non seulement mon enfant a toujours la tétine, mais en plus, il a mangé le masque pendant 2 ans.
C'est ça, donc.
Ça va devenir un dingo.
Ça veut dire, hop, dans la forêt, quoi. C'est qu'il faut vraiment retourner, on a vraiment besoin de retourner dans la nature.
Sans même parler des activités physiques et des questions de santé, de cardiovasculaire, etc.
Après, par rapport au confinement, moi, j'ai eu des retours de parents, justement, qui ont dit qu'ils ont eu leur enfant pendant le premier confinement. Ils étaient à la maison, tranquilles, sans travail, papa et maman. Pas de mère, pas de visite, pas de... Et en fait, ils l'ont vécu, mais hyper pédin. Mmh. Et en crèche, on dit, oh oui, ces enfants-là, ils ont été hyper cool par rapport à la moyenne des enfants. Comme quoi, ça dépend aussi du contexte. C'est que j'ai eu beaucoup de retours comme ça aussi du terrain.
Enfin, oui, ça a été très variable. Contrasté, en fait.
C'est bon comment le parent le vit, en fait, comment il porte l'événement, en fait. Ouais.
Et Sophie, donc les enfants avaient 3 et 1 an
Non, 3 mois. C'est quoi
3 ans et 1 an
Non, 3 mois. Elle est née en décembre 2019, donc ça a commencé en mars, donc c'était 3 mois. Bah, moi, je sais pas, je l'ai pris de manière positive en me disant que c'était quand même le meilleur moment pour que ça puisse nous arriver.
Ouais,
ça peut être hyper sympa. Après, voilà,
en fait, il fallait accoucher juste avant.
C'est un peu ça, finalement. En décembre, c'était bon. Et bon, après, c'est toujours pareil. Enfin, c'est un peu ma manière d'essayer de voir les choses, de dire toujours, en fait, c'est la meilleure solution. enfin c'est le meilleur truc qui aurait pu nous arriver, alors que dans les faits peut-être que ils auraient eu un an de plus, j'aurais dit c'est quand même le meilleur âge pour que ça arrive. En fait, c'est toujours le meilleur âge d'une certaine manière dans notre tête, il faut juste décider pour quoi,
l'accepter quoi.
Pour l'accepter. Mmh. Donc moi je me suis dit c'est le meilleur âge parce qu'en fait effectivement c'est dur quand même quand le deuxième enfant arrive. Donc à ce moment-là, on était tous les quatre ensemble, on a pu et d'ailleurs, ça a été même pire pour l'aîné. Enfin, la vraie crise de l'arrivée de l'enfant, du deuxième enfant, a eu lieu à la fin du confinement, pendant l'été, parce que c'est là qu'elle s'est rendue compte que j'étais beaucoup à m'occuper de notre enfant qu'elle, parce que nous on était confinés avec mes beaux-parents, donc on avait toujours de l'attention sur tout le monde. Sauf que là, on était à nouveau quatre pendant l'été quand on est parti.
Confinés à quatre adultes. On en vient au village qui est là pour.
Voilà, il y a eu un village. Et après, on est parti, on a fait du van.
Ah oui, tranquille.
Pendant l'été. Ouais. Et donc là, notre aîné a fait une genre de crise, voulait plus manger. Parce que, c'est peut-être pas le sujet, mais on avait dit, je lui ai dit, mais non, t'es grande. Et donc je lui disais, mange pour être grande. Et en fait, je me suis aperçue que ça l'avait complètement bloquée, parce qu'elle voulait pas grandir, parce qu'elle voyait que si je voulais pas la porter parce qu'elle était trop grande, et je lui disais, mange pour être grande. Et donc en fait.
C'était un cercle vicieux pour elle.
Ouais, c'était horrible. Elle avait aucun intérêt à grandir. C'était fou. En fait, c'était fou de me dire qu'elle a 2 ans et demi, elle a compris tout ça. Et je m'en suis aperçue parce qu'un jour, elle est rentrée dans un ascenseur, elle m'a dit, il est tout petit cet ascenseur, il doit pas manger beaucoup. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, c'est ça le problème. Et ça a mis 3 mois à vraiment être compris, mais c'était vraiment catastrophique, c'était très dur.
Alors, je voudrais absolument vous faire écouter, avant la fin de cet épisode, un témoignage que j'ai reçu. Elle s'appelle Anne-Sophie, elle nous donne sa technique quand son enfant fait des colères, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je préviens tout de suite, c'est assez, extrême. On écoute.
Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je suis maman de 2 garçons de 1 an et 3 ans. Mon grand de 3 ans, depuis quelque temps, fait des crises. On sait alors qu'il est très fatigué. Mais dans ces moments-là, la moindre chose qui ne se passe pas comme il aurait voulu déclenche une colère, des hurlements interminables. Comment réagir en tant que parent dans une telle situation? Je vous livre une solution, testée et approuvée par plusieurs de nos amis. Plutôt que crier et s'énerver mutuellement, vous annoncez à votre enfant qu'il va finir habillé sous la douche. Et vous mettez votre menace à exécution. Froide la douche, bien entendu, ça remet les idées en place. Vous verrez qu'une fois séché et rhabillé, votre enfant sera calmé. Maintenant qu'il sait de quoi vous êtes capable, en cas de crise, la simple menace de la douche froide tout habillée suffit à le calmer. Cela peut paraître brutal, mais promis, ce n'est pas violent. Soyez rassurés, on s'aime toujours autant.
Alors, merci beaucoup Anne-Sophie pour son témoignage qui, bon, a fait beaucoup réagir tout le monde. Ici, Héloïse, on prend le problème par quel bout? Évidemment que ça marche, c'est-à-dire que son enfant derrière, il fait plus de colère. Mais pourquoi ça ne peut pas être recommandé d'avoir ce type de méthode?
En fait, déjà, on va reprendre les choses un peu à la base. On sait que le cerveau de l'enfant est assez vulnérable au stress prolongé et au stress qui peut être intense. Donc c'est pas genre crier sur l'enfant une fois de temps en temps qui va l'abîmer, c'est vraiment la répétition et l'intensité qui fait que c'est compliqué.
Alors ça c'est bien, déjà ça décupabille. Si on pète un câble de temps en temps nous-mêmes et qu'on crie...
Vous pète des câbles de temps en temps
Non, pas vous.
Si, mais si.
Au parc devant tout le monde.
C'est ça, dans la maison. Donc du coup, faut vraiment... Ouais, pendant longtemps on a dit le stress abîme le cerveau. Non, ça dépend quel stress. Un peu stress c'est bien, mais après pas trop de stress et pas trop souvent. Là, le fait de réguler l'émotion de l'enfant, non pas par la tendresse qui viendrait en fait diminuer les moments de stress et augmenter l'ocytocine, mais plus par le phénomène de... C'est une forme de violence, hein, la douche froide. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va déconseiller, d'ailleurs, qui est interdite depuis la loi de 2009, avec la violence... on interdit les violences éducatives. Effectivement, le mot éducatif porte mal son nom. En fait, ça va venir générer un sentiment de peur.
2019.
Hein. 2019.
Ouais, parce que 2009, ça aurait été.
Ah non,
ça aurait été
2009.
Bien. Ouais, ça aurait été bien 2009, mais non, c'était très
non,
tard.
Non,
ouais.
Non, bah non. D'ailleurs, on est le 56e pays au monde à avoir interdit le sentiment corporel adressé à l'enfant. C'est quand même.
Ouais, 60 ans après les pays du Nord, après le Danemark et je sais plus la Suède, ouais.
C'est quand même assez incroyable.
On est en retard.
Donc, du coup, effectivement, ça, c'est vécu comme. C'est une forme de violence qui pourrait être dite éducative, mais c'est une forme de violence qui va générer beaucoup de stress chez l'enfant, qui ne va pas du tout l'aider ni à réguler ses émotions plus tard, ni à comprendre. En fait, en quoi son comportement était inadapté à la base. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on déconseille au maximum pour les enfants. En fait, ce qu'on remarque dans les études, c'est que les enfants qui sont exposés aux violences éducatives dites répétées, aux châtiments corporels, que ce soit violences éducatives, qu'elles soient psychiques ou physiques, elles génèrent plus d'agressivité. Il y a plus de risques de générer l'agressivité chez l'enfant, il y a plus de risques de perturber aussi le sommeil la nuit, il y a plus de risques de le faire perdre en empathie. L'enfant a une empathie qui est innée. Mais effectivement, moins on traiterait qu'empathie, plus on le mettrait dans un rapport de force et d'autoritarisme, moins il risque d'être empathique aussi. Donc ça va aussi, ça peut aussi jouer sur l'attachement, ça peut aussi jouer sur sa scolarité, sur son quotient émotionnel. Donc il y a pas mal de plans qui vont être bousculés dans sa vie. Donc, de manière générale, on déconseille fortement. Donc déraper de temps en temps, pourquoi pas. Et moi, ce que je fais en tant que maman, c'est que quand je dérape, je m'excuse auprès de mes enfants. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va éviter.
Qu'on va éviter. Sophie, la douche froide, c'est un peu trop.
C'est un peu trop. Mais après,
ce
moi,
qui est intéressant, c'est de dire qu'on peut s'excuser si on pense.
Ouais. Après, moi, la question que je me suis posée quand vous avez dit ça, c'est parce qu'il faut qu'on se désamorce de l'énervement qu'on a eu.
Oui.
Et comme on dit aussi parfois que les enfants, ils ont peut-être un peu. Enfin, si on fait trop loin du moment où ça a eu lieu, est-ce qu'ils se souviennent que c'est pour ça qu'on le fait? Enfin, quand je parle des petits, bien sûr. Par exemple, si à 2 ans, je crie.
Oui, 2 ans, c'est un peu jeune.
Voilà. Et ben, ça m'arrive. Et parfois, je me dis, bon, ben, attends, déjà, moi, je suis pas prête à m'excuser tout de suite parce que, enfin, je suis en train de bouillir aussi. Donc, j'attends le moment où je. Ok, excuse-moi, j'ai crié et tout ça. Et je me dis, est-ce qu'elle va se comprendre que les deux ont
non,
lieu?
Non, 2 ans, c'est ouais. Trop petit, ouais.
Donc, en fait,
ça marche plutôt pas mal.
Il y a des failles dans le système.
Le temps qu'on descende, en fait, ouais, le tout petit, les mémoires. Ouais. Ouais, complètement.
Donc,
ouais.
Bon. On va dire qu'on fait tout.
Isabelle, vous étiez en train de bouillir quand on écoutait ce témoignage.
Oui, mais j'ai pas grand chose à dire de plus que ce qu'Héloïse a dit, si ce n'est que on est tenté d'avoir recours à des techniques comme ça parce que ça marche du feu de Dieu, ça oui, marche hyper ça bien, marche, hop, ouais. Il file doux. Et évidemment, parce que dans les réactions de stress, il y a, quand notre cerveau est sous stress, il y a attaque, fuite ou immobilisation. Et en fait, lorsqu'on met un enfant sous une douche froide, il est dans une impuissance totale, il est sous terreur, et du coup, il va non seulement déclencher l'immobilisation, mais un autre phénomène qui est une soumission et même une anticipation du désir de l'agresseur. Et donc, voilà, on le découvre beaucoup, de plus en plus, on en a énormément parlé dans les cas de viol, mais en fait, c'est pour toutes les violences. Lorsque l'enfant est comme ça, dans une terreur totale, il va chercher à amadouer finalement son bourreau, et du coup, il devient un petit enfant adorable, mais c'est très momentané. Donc, aller vers cette parentalité que j'appelle la parentalité court terme, c'est-à-dire je veux du calme tout de suite, là, maintenant. Et en oubliant complètement le long terme, eh bien, voilà, on risque effectivement de faire toutes sortes de choses.
Ce qui va quand même dans le bon sens.
Sur le long terme, ça va pas dans le bon sens, parce que comme l'a expliqué très bien Héloïse, toutes les études montrent que, quelques années plus tard, eh bien, cet enfant ne saura pas réguler ses émotions, il va être beaucoup plus agressif et avoir des difficultés scolaires, etc. Et du coup, ça va empirer, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Donc,
ce qui va quand même dans le bon sens, c'est que ce genre de témoignages, je veux dire, il y en a de moins en moins. Dans les années 60, c'était des méthodes éducatives classiques. Le film Les Choristes le montre très bien. Enfin, je cite celui-là, je pourrais en citer d'autres. J'aimerais lire un extrait du livre de Sophie Astrabi, Les bruits du souvenir. Elle raconte, tout à coup, elle se souvient. Une gifle immense, démesurée. Une gifle qui part de derrière l'épaule et qui s'écrase sur la joue. Une gifle assourdissante qui ne laisse que le feu sur un visage cramoisi. Elle se souvient du silence qui a suivi, celui qui était installé dans son tympan et puis dans sa bouche qu'elle n'a pas autorisé à crier. Il, le papa, lui avait alors dit cette phrase, cette explication qui arrivait après la tempête, « Va ramasser le papier que tu viens de jeter par terre ». Donc on se met à la place du papa dans cette histoire qui se dit « Au moins avec cette claque, elle ne mettra plus jamais un papier par terre ». Sauf que 30 ans plus tard, cette femme, c'est resté un traumatisme.
Oui, c'est vrai que c'est un passage... il y a toujours un peu de soi dans les livres, dans le roman, et c'est vrai que c'est vraiment un truc, un épisode de ma vie qui a eu lieu. Et donc, effectivement, 30 ans après, je m'en souviens, enfin un peu moins de 30 ans, mais c'est vrai que c'est une vraie gifle qui a eu lieu pour un vrai jet de papier par terre, et c'est vrai que... Et que, en fait, c'est fou que... Je sais pas si mon père se souvient qu'il l'a fait. moi, je m'en souviens.
Sans doute que non.
Je pense pas qu'il s'en souvient.
Que lui se disait juste, au moins, elle comprendra. Quoi.
Ouais, mais c'est fou, parce que c'est fou de se dire que c'était tellement anecdotique. Mais je m'en souviens exactement. Je sais où c'était, sur quel chemin c'était, dans quelle ville c'était. Et je me souviens d'avoir été hyper choquée par cette chose qui t'est arrivée. Alors que moi, justement, je jetais un papier l'air de rien par terre en me disant... ça va passer, personne va s'en rendre compte, parce que j'avais pas conscience de tout. Et donc j'avais pas eu d'explication, et donc c'est ça en fait ce qu'on dit, ce que vous dites, c'est que sans explication, c'est des choses qui restent à vie et qui marquent énormément.
Il écoute des podcasts, votre papa?
Je pense pas qu'il écoutera celui-là, mais après, bon, on fait toujours des...
Après, à l'époque, c'était encouragé aussi, à l'époque, on leur conseillait aussi.
Je sais pas si c'était encouragé,
mais c'était pas... par la peur, ils savaient pas tout ce qu'on sait aujourd'hui aussi.
Mais en fait, oui, nous, on est. Enfin, je suis peut-être la génération qui peut dire que effectivement. Enfin, parfois, j'y pense en fait à cet épisode. Je me dis, c'est incroyable parce que je m'en souviens. Je sais que c'est des gifles. J'en ai pas eu non plus 1000, mais celle-là, je m'en souviens. Et donc, si je m'en souviens, c'est que. Enfin, moi, je peux crier, mais je franchis jamais le cap de la violence physique parce que déjà, ça me vient pas à l'idée.
Comme quoi, ce que vous dites, Isabelle, il n'y a pas le mécanisme de la reproduction.
Mais bon, le cri, parfois, je me dis, est-ce que ça, c'est pas un mécanisme de la reproduction? Parce que parfois, je trouve que je crie. Mais bon, on crie tous et ça rassure, mais bon.
Non, les Français crient tous.
Ah oui.
C'est très, très français. Les Français crient, on crie plus que dans toute l'Europe. Donc, c'est notre style. Et du coup, on est renforcé par c'est la culture. Et donc, c'est quasi naturel et normal de crier sur les enfants. Mais ça choquerait énormément un Suédois, un Norvégien ou même un Espagnol.
Mais c'est bizarre parce que moi, je sais que c'est mal. J'aime pas quand je le fais. Je m'en sens mal quand je l'ai fait. Et du coup, c'est pas quelque chose de maîtrisé. Je me trouve, d'ailleurs, je crois que je suis la seule à le faire. J'ai pas l'impression que tout le monde le fait du
alors,
tout. Là, je le dis.
Parce que tout le monde se dit ça chez soi. Mais, en fait.
Oui, mais là, je le dis parce que, voilà. Et donc, on se dit qu'on le fait aussi. Mais du coup, je me dis, c'est fou que ce soit culturel parce que qu'est-ce qui fait que nous, les Français, le faisons? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Mais notre histoire. Et depuis, ouais.
Mais je suis sûr que 100% des gens qui nous écoutent se retrouvent dans ce témoignage et moi je m'y retrouve.
Oui, complètement. Oui,
aussi. Bah, moi aussi j'ai crié sur les enfants. Ouais.
Ah, c'est bien de le dire, Isabelle.
Oui.
Même Isabelle Filioza.
Même Isabelle Filioza.
On se détend, si on crie, ça fait pas de mal.
Heureusement. Et c'est important parce que ça permet de mesurer comme on sent à l'intérieur quand j'ai senti cette énergie qui me prenait, cette envie de le taper. J'ai dit, waouh, moi? Non-violente depuis toujours et éduquée par deux parents non-violents, j'éprouve cette impulsion à frapper. Ça m'a permis de mesurer que les gens qui ont reçu des violences, c'est sacrément dur de lutter. Donc c'est vraiment tout un chemin et on a besoin d'être vraiment tendre envers soi-même sur ce chemin et déjà enlever le verrou de la culpabilité. Ça sert à rien de se culpabiliser, de crier ou de faire...
Mais qu'est-ce qui fait que du coup on le refait pas? Enfin, je veux dire, si on
ne le refait pas, c'est qu'on a besoin d'outils. Déjà, la guérison de l'enfance. Donc la gifle, là, en discuter un petit peu avec papa. Et pouvoir récupérer du pouvoir par rapport à tout ça et par rapport à tous les gens qui vous ont crié dessus et humilié et dévalorisé. Reprendre votre propre pouvoir. Et une fois que ça s'est fait, développer différentes stratégies. Parce que il y a toutes sortes de façons de ne pas crier. Donc j'en décris un certain nombre dans le livre qui vient de sortir là, parents.
Ah, je l'ai plus. Si Isabelle, vous avez oublié là, il faut que je vous aide.
Parents. Parents sans stress, non, pas du tout.
Je vais retrouver, mais alors, Sophie, c'est hyper dur. Ce serait, je me mets à votre place, d'appeler votre père en lui disant, tu te souviens de la baffe que... C'est très compliqué.
Bah, déjà, je l'ai écrit dans un livre et il l'a lu. Et
alors
et donc, non, enfin, je veux dire, bon, après, c'est pas sa personnalité, pardon, de... Je sais même pas, si il s'est reconnu, je sais pas s'il me le dirait, donc c'est un grand mystère. Mais ouais, moi, je suis pas du tout capable de faire... Enfin,
de faire face à ça.
Parents sans s'énerver.
Ah voilà, je suis en train de
dire. Mais il ne s'agit pas de téléphoner pour dire papa, qu'est-ce que j'ai. C'est vraiment dans le cadre d'une rencontre, mais d'abord d'une rencontre avec soi-même. C'est-à-dire qu'avant d'aller parler avec papa, c'est parler avec papa à l'intérieur de soi, déjà. Parce que.
Je vais écrire un autre livre alors.
Faites-moi
ça. Parlez avec vous-même. Ce sera en deux tomes. Parlez avec vous-même, tome 1. Parlez avec papa, tome 2. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était très enrichissant, cette conversation. Je suis sûr que ça aura aidé plein de monde et que ça aura déculpabilisé plein de monde. Un petit cri pour la fin, quelqu'un, non? Non, on garde ça pour ce soir, la maison. Alors, je rappelle vos livres. Héloïse Junier, le manuel de survie des parents qui portent bien son nom, basé sur des données scientifiques. Je l'avais dit en début de podcast que tout est basé sur des données scientifiques. Je crois
et
que
non,
je l'avais dit.
Oui, je sais plus. Oui,
bon, en tout cas, je l'avais pensé. Et c'est bien
cas,
déjà.
C'est mon cheval de bataille.
Votre cheval de bataille, de décrypter par le prisme justement des études scientifiques. C'est chez Duno. On recommande Sophie Astrabi, votre roman, vous, l'autrice. Les bruits du souvenir, c'est votre troisième livre. C'est sorti chez Flammarion. En attendant, le livre sur votre ressource intérieure. Et les ateliers Filioza, comprendre et éduquer son enfant, ça c'est chez Marabout, avec notamment un atelier Stop aux crises, un atelier Accueil des émotions, un atelier Je n'ai plus peur et un atelier Technique d'écoute. Merci beaucoup à toutes les trois.
C'était merci.
Cool.
Merci Benjamin.
Merci à Marine Courtade qui, pour la prise de son et pour l'organisation de l'enregistrement. Marine, on n'a pas dit de conneries? Marine dit qu'on n'a pas dit conneries, donc tout va bien. Ouais, Marine est restée, c'est dire. Merci à Alexandre Ferreira pour la réalisation, aux équipes de 2P2L et bien sûr de France Télévisions pour la production. À bientôt tout le monde, ciao.